And I would make it very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are.
Ça, c'était le président Joe Biden, Raphaël, quand il n'était pas président, quand il était en campagne, et il disait, à propos du meurtre du journaliste Khashoggi, là, on va faire payer le prix aux Saoudiens.
Comme quoi, il y a des choses qui changent et pas à peu près entre ce que tu dis en campagne et ce que tu fais une fois que tu es rendu avec les fonctions
ça,
de président.
Ça, c'est universel partout.
Oui. Ben, non seulement c'est universel, mais ce qui est également universel, c'est l'énorme difficulté de traiter avec ce régime-là quand tu es président américain, avec le régime saoudien, parce que tu es toujours pris entre l'arbre et l'écorce. Parce que d'un côté, évidemment, l'Arabie saoudite, c'est un allié américain contre l'Iran, également contre des groupes terroristes comme Al-Qaïda, allié d'Israël, le plus grand ami des États-Unis depuis des générations au Moyen-Orient. Mais de l'autre côté, évidemment, c'est un, disons, un violeur en série des droits humains. Puis là, avec le cas de Khashoggi, c'était non seulement un viol de droits humains, mais des droits d'un journaliste qui était basé aux États-Unis, affilié au Washington Post. Donc, c'était épouvantablement difficile à traiter comme dossier. On se rappelle qu'on avait tiré à boulet rouge sur l'administration de Donald Trump quand c'était arrivé ce meurtre-là, c'était il y a à peu près 2 ans et demi, parce qu'il n'avait essentiellement rien fait, son administration avait essentiellement rien fait. Et Joe Biden, justement, alors qu'il était candidat présidentiel, s'était présenté comme un petit peu aux antipodes de Trump, comme quelqu'un qui, lui, une fois qu'il est arrivé en fonction, allait avoir une réponse musclée, allait arrêter la vente d'armes à l'Arabie saoudite et allait, pour reprendre l'expression qu'on a entendue en ouverture de segment, traiter le régime saoudien pour les parias qu'ils sont. Mais ça a drôlement changé parce que, suite à sa victoire, il y a un appel privé avec le prince Bin Salman, qui, on l'a appris aujourd'hui, est essentiellement le responsable, presque uniquement responsable de ce meurtre-là, s'engage non pas à affaiblir la relation entre les deux pays, mais à la renforcer. Puis là, dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a? Bien, on sait qu'on s'apprête à publier un rapport de la CIA sur la mort de Khashoggi, qui risque d'être assez embarrassant pour le régime saoudien. Et là, tu as l'administration de M. Biden qui dit, bien, on va étudier la possibilité de mettre fin à la vente d'armes et de réévaluer notre relation avec le régime.
Mais Raph, rapport, ça, tout ça, là, la question de l'Arabie saoudite, ça illustre une certaine hypocrisie qui est peut-être nécessaire dans le jeu des relations internationales. Parce que, tu sais, les Américains ont envahi l'Irak au nom de la démocratie, OK? Notamment, il était aussi question d'armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées. Ils ont frappé la Libye, encore une fois, pour un changement de régime. Ils sont en conflit avec l'Iran, puis ils disent que l'Iran, c'est un régime non démocratique, etc., etc. Puis leur plus grand allié dans la région, à part Israël, c'est un pays qui coupe les couilles des dissidents puis qui commet des atrocités de droits humains puis qui n'est pas une démocratie, puis c'est l'Arabie saoudite.
Exactement. Et non seulement ce n'est pas une démocratie, mais dans le cas du prince Bin Salman, on le voit à Washington depuis maintenant plusieurs années comme non seulement l'héritier du trône, mais celui qui risque d'être aux commandes pendant très, très longtemps et qui ne sera pas, on s'entend, là, à la tête d'une démocratie. Et pourtant, on le traite avec des gants blancs. Donc, après le rapport d'aujourd'hui qui est sorti, comme quoi le lien, il est immanquable, c'est lui qui a ordonné le meurtre de Khashoggi. Écoute bien ce qu'on décide de faire du côté de l'administration américaine, l'administration de M. Biden. C'est qu'on va sanctionner certains des membres, disons, de la garde rapprochée en exemptant de toute sanction le principal intéressé, le prince lui-même. Et on ne cessera aucunement la vente d'armes. Pourquoi? Mais parce qu'on a peur de faire mal à cette relation privilégiée-là. Donc, tu parles d'hypocrisie. Effectivement, c'est un sacré bel exemple.
Mais il arriverait quoi si les Américains cessaient d'être si près des Saoudiens?
Bien, c'est un petit peu comme je disais tantôt. Je peux pas te garantir ce qui arriverait. Je peux te dire la crainte qui est très présente à Washington, c'est qu'on viendrait renforcer l'Iran parce que le contrepoids que constitue l'Arabie saoudite serait affaibli de par sa relation affaiblie avec Washington. Et tout ce qui est, disons, lutte au djihadisme, à l'extrémisme, etc., dans la région, pourrait également être, en guillemets, affaibli par ça. Ça, c'est la crainte. Est-ce que c'est nécessairement ce que ça donnerait? Je ne sais pas. Mais c'est la crainte qui semble motiver en bonne partie l'hésitation. Et je t'ajoute également ceci, parce que ça fait partie de l'équation, l'argent. L'argent. L'Arabie saoudite est un énorme acheteur d'armes américaines. On ne parle pas de quelques dollars, là. On parle de centaines de milliards de dollars en vente d'armes américaines au régime saoudien depuis les dernières années. Donc forcément, ça aussi, je m'excuse, mais ça joue dans la balance.
OK, parfait. Parle-moi de la grande messe conservatrice qui commence là, en fin de semaine aux États-Unis.
Écoute, on se parle de messe conservatrice. Peut-être qu'on devrait se parler de messe trumpiste. Parce que cette conférence-là, toi et moi, on s'en est parlé en début de semaine. Depuis des décennies, c'est censé servir d'espèce de rassemblement idéologique. Qu'on aime les idées conservatrices ou non, c'est à ça que c'est censé servir. C'est un mouvement idéologique. Mais là, ce qu'on a cette année, en fait, c'est vrai depuis les dernières années, depuis que Trump est là, c'est une espèce de queue de la personnalité. En fait, hier, je ne sais pas si tu as vu l'image circuler sur les réseaux sociaux, il y a une image qui valait mille mots. On est allé dévoiler, à quelques heures de l'ouverture de la conférence, une statue, grandeur humaine, plaquée or, de Donald Trump. Et tu as eu, si on veut, le dirigeant de l'organisation là, qui met en branle cette conférence-là, qui est allé dire, écoutez, présenter une plateforme conservatrice à notre conférence, c'est une idée vide de sens. C'est parce que ça le dit dans le titre, conservatrice. C'est absolument dément. Et hier soir, autre déclaration qui vaut mille mots, Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, se fait demander, encore une fois, à quelques heures du début de la conférence, si Donald Trump revient et devient à nouveau le candidat du Parti républicain en 2024, allez-vous l'appuyer? Sa réponse, absolument. Je te le mentionne pourquoi? Parce que le même sénateur McConnell, le même numéro un des républicains au Sénat, il y a moins de deux semaines de ça, sur le plancher du Sénat, disait de Donald Trump qu'il était personnellement singulièrement responsable de l'insurrection du 6 janvier dernier. Fait qu'écoute, on en a pour 3 jours, assurément on va s'en reparler lundi, mais je te le dis tout de suite, Donald Trump va en bon français closer la conférence dimanche. Et aujourd'hui, c'était la première journée, qui a closé la journée d'aujourd'hui? Son fils, Donald Trump Jr. Donc, le nom Trump est encore partout dans ce mouvement-là et dans ce parti-là, un mois après leur départ de la
maison. As-tu vu le sénateur Ted Cruz crier le mot « liberté » comme s'il était en train de se faire dépecer dans un film hollywoodien?
Ben, écoute, ton image est bonne, c'est qu'il citait littéralement un film hollywoodien, il citait William Wallace, le héros de Braveheart. J'aurais voulu ouvrir la chronique avec ça si on n'avait pas eu l'histoire de Khashoggi.
Non, t'aurais fait peur aux enfants.
Ouais, peut-être pas juste aux enfants, effectivement.
OK, parle-moi de cette Américaine pas comme les autres là, qui s'en va dans l'espace.
Écoute, c'est des nouvelles lourdes qu'on a eues cette semaine. Je veux finir avec une belle nouvelle. On a parlé beaucoup, beaucoup des travailleurs de la santé, évidemment, depuis un an. Je veux te parler d'une travailleuse de la santé qui n'est pas comme les autres. Elle s'appelle Haley Arsenault, travaille à l'hôpital pour les enfants St. Jude à Memphis. Et le mois prochain, la navette SpaceX doit quitter la Floride pour partir dans l'espace, faire le tour de la Terre, là, dans les airs. C'est une mission spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une mission à laquelle peuvent participer des civils sous invitation. Madame Arsenault fait partie des invités. Et pourquoi est-ce qu'elle est spéciale? Bien parce que, de un, elle sera la plus jeune Américaine de l'histoire à voler en orbite à 29 ans. Et de deux, parce qu'elle serait la première à le faire avec du métal dans la jambe. Pourquoi du métal dans la jambe? Bien parce qu'avant de devenir elle-même une professionnelle de la santé à l'hôpital St. Jude pour enfants, elle était patiente à l'hôpital St. Jude pour enfants. Elle avait 10 ans. Elle avait un cancer des os.
Et on a inséré elle a eu le cancer quand elle était enfant?
Quand elle était enfant.
Puis là, elle s'en va dans l'espace.
Écoute bien ça. On a inséré des tiges de métal à l'époque dans sa jambe. Et là, à cause de ce que la technologie permet, à peu près 20 ans plus tard, elle peut aller dans l'espace. Et le punch de l'histoire, pour moi, c'est ça. Là. On a appris que l'année suivant ses traitements, alors qu'elle avait 11 ans, elle avait dit que son rêve dans la vie, c'était de travailler un jour elle-même à St. Jude pour aider les enfants malades. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, non seulement elle a accompli son rêve de travailler avec les enfants malades, pour les enfants malades, mais elle s'en va dans l'espace. C'est quand même assez extraordinaire.
C'est une belle histoire, en effet. Bonne fin de semaine, Raphaël.
Bonne fin de semaine.